Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un exercice qui va tenter de mêler des questions qui soient à la fois des questions juridiques, mais également des questions linguistiques. Bon. Alors, il va de soi que je ne suis pas linguiste, je ne suis pas non plus philosophe, je suis déjà à peine juriste, donc on va commencer à cumuler beaucoup de difficultés, mais il me semble que, justement, ces questions sont intéressantes, comme l'a montré Jean-Marie, qui sait s'arrêter à ce que d'autres considèrent comme des détails, qui en réalité n'en sont pas, puisque de toute façon, comme disait Napoléon, il n'y a pas de détails, et que ces questions de langage, ces questions linguistiques permettent de saisir des choses qui, à mon avis, sont trop peu vues, regardées par les juristes, et sur lesquelles, moi, je réfléchis depuis un petit moment, dans mon coin, comme ça, hein, en pensant, en écoutant des choses, et en m'interrogeant, et en étant très attentif à des questions de langage, puisque, de toute façon, le droit en lui-même n'est qu'un univers de langage. Et donc, je suis parti, mais justement, d'une observation de Jean-Marie, j'allais dire comme d'habitude, qui m'a frappé, beaucoup me frappe hein, depuis longtemps, mais alors celle-là particulièrement, passée un peu inaperçue aussi, dans une note de lecture qu'il avait fait justement dans un numéro de Ius Politicum, et qu'il avait également développé dans un papier qui concernait un colloque sur ESMA. Il dit ceci: il ne faut pas se méprendre sur la signification de l'expression « république démocratique ». Une grande différence sépare dans la mentalité de l'époque, la Troisième République, le substantif démocratie de l'adjectif démocratique. Le second n'engage pas, comme le premier, euphonique, décoratif et relativement consensuel, il ménage certaines évolutions du monde qu'Esmin évoque, dans ses éditions successives, notamment sous l'angle du droit comparé, mais n'implique en rien une conversion à la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui comprise. C'est pas très long, mais ça m'a semblé extrêmement subjectif. Tiens, démocratie, démocratique, est-ce que finalement, démocratique, ce serait un moyen d'atténuer le substantif, d'atténuer sa signification, comme d'atténuer ses effets, et puis, au fond, d'en parler sans en parler, quoi. De se référer à des démocraties sans avoir à en supporter un certain nombre d'effets. Et donc, je trouvais ce constat non seulement juste du point de vue de l'observation institutionnelle, mais fécond du point de vue épistémologique. Le recours à l'adjectif ne serait pas qu'une simple variation sémantique, un prolongement de sens par d'autres moyens, mais contribuerait à influencer le sens, voire à le constituer. On le sait, non seulement les mots sont porteurs de sens, le droit, comme je l'ai dit à l'instant, est un univers de langage, mais on s'interroge peu, en droit, les juristes en général, sur les conséquences linguistiques de leur emploi. La forme que prennent certains mots en droit, du point de vue grammatical, peut-elle contribuer, y compris en droit constitutionnel, à avoir une influence sur le sens? Et même, est-ce que cette influence serait volontaire? Donc, toute l'interrogation, que je ne prétends pas du tout résoudre ici, je n'ai pas forcément de réponse, se trouve là. L'adjectif démocratique, plutôt que le nom, révèle-t-il quelque chose? A-t-il une incidence constitutionnelle? Si oui, à quoi est-ce dû? Est-ce que c'est un stratagème linguistique? Et si oui, existe-t-il des propriétés spécifiques à l'adjectif qui permettent d'expliquer rationnellement ce stratagème? Donc, pour essayer de répondre à cette question, qui, comme vous le voyez, je ne vous déçois pas, est très exploratoire, pas encore, je ne vous déçois pas encore maintenant, ça viendra peut-être après, je vais partir de deux constats qui me semblent quand même pas inintéressants. Le premier, que chacun peut faire, y compris un étudiant de première année, justement, mais je ne sais pas si je leur dirai un jour, le mot « démocratie » ne figure pas dans la Constitution de 1958. Ou plus exactement, une fois. On ne parle pas de démocratie. Ça n'étonnera que les journalistes observateurs de BFM et d'autres stations de radio qu'a évoqué Jean-Marie tout à l'heure. Mais dans sa constitution, la France ne se présente pas comme une démocratie. Hein. La constitution de 58, comme celle de 46 d'ailleurs, se contente de parler de son article premier de République démocratique. Tiens, là encore. 46, 58. D'ailleurs, ce qu'elle n'est même pas au premier chef, elle n'est même pas démocratique au premier chef. La République, elle est d'abord, vous pouvez tous le constater aussi, indivisible, laïque. Et elle devient après seulement démocratique et sociale. L'expression démocratie n'est pas davantage présente dans le préambule de la Constitution qui n'évoque que l'évolution démocratique d'un certain nombre de peuples qui pourraient éventuellement, selon cette évolution, être amenés à vouloir rejoindre la République. Intéressant. Enfin, on a un article 4 qui nous dit aussi, introduit dans la révision constitutionnelle de 2008, que la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation. C'est beau ça, la vie démocratique de la nation. Ça n'existait pas dans le texte de 58. Le seul texte, la seule occurrence qui existait dans la Constitution de 58 de la démocratie, d'ailleurs, démocratie introduite pour la première fois en 1958, c'est le fait que les partis politiques doivent respecter la souveraineté nationale et les principes de la démocratie, dont il n'est par ailleurs absolument rien dit. Donc, démocratie fantomatique, si vous voulez, c'est un peu étonnant quand on regarde la manière dont on rend compte du fonctionnement constitutionnel, politique de la France, où le mot démocratie est quand même extrêmement présent, par comparaison, mais aussi par absolu. Alors bien sûr, on en parle quand même un peu. On nous dit à un moment donné, à l'article 2, que la République a un principe. République qui n'est plus démocratique, ce coup-là. Elle est République tout court. Elle a un principe, la République. Qu'est-ce que c'est ? C'est le gouvernement du peuple pour le peuple par le peuple. Ce qui veut tout et rien dire. Et je me réfère une fois de plus à Jean-Marie, pardon, qui l'a démontré dans l'entrée d'un dictionnaire, je crois que c'est dans le dictionnaire des populismes, je le cite, gouvernement du peuple, mais l'expression peut être prise en deux sens, gouvernement exercé par le peuple ou gouvernement exercé pour le peuple, ce qui n'est pas la même chose, et à supposer que l'on retienne le second, que peut-être un gouvernement, même entendu au sens de pouvoir, exercé par le peuple, à quel régime ou à quelle procédure est-il censé renvoyer ? Un auto-gouvernement du peuple ? Mais de quelle manière ? Par la ratification référendaire de toute décision prise au nom de la collectivité, par son initiative, par la norme qui lui est imputée et qui est donc sa volonté, ou dans le fait d'élire ses représentants. Bon. La formule n'est pas moins problématique, comme continue à dire Jean-Marie, compatible avec un système où les gouvernements agissent en principe pour le bien du peuple, mais sans lui, voire contre lui. On peut qualifier un tel régime de despotisme éclairé, ça n'est pas impossible. Donc en réalité, de cette formule censée nous parler de la démocratie, on ne tire rien. Enfin, on ne tire rien qui corresponde à une réalité extra-linguistique. Alors, le constat n'est pas nouveau. Hein. La République démocratique apparaît dans notre droit constitutionnel en 1848, au préambule, au 2 du préambule de la Constitution de 48. La République française est démocratique. Et puis, il y a également, vous savez, le serment de fidélité du président de la République qui devait jurer de rester fidèle à la République démocratique une et indivisible. Alors là, peut-être y a-t-il des historiens parmi vous, et l'historien est toujours redoutable dans ces cas-là, parce qu'il a une explication qui n'est pas philosophique, mais historique. Il vient avec explication historique, et bien oui, mais bien sûr, République démocratique, bien évidemment, on ne parle pas de démocratie, parce que ce qui compte, c'est d'abord la République, en 1948, et on ne peut lui donner que raison, parce que le mot République, on est davantage attaché à la démocratie qu'à la République, parce que la République, c'est le régime contre tout type de pouvoir personnel qui se sont exprimés dans l'histoire, que ce soit sous la monarchie absolue, sur laquelle il y aurait beaucoup de choses à dire, ou sur la chose, ou sur le régime du pouvoir personnel, comme on disait à l'époque, un régime césariste. Bon. Donc, c'est tout à fait logique hein, de vouloir célébrer la première et de laisser passer la seconde. Alors, ça ne résout pas tous les problèmes, parce que la République doit, d'après ce texte, présenter certaines caractéristiques. Elle ne peut donc pas être césariste, comme je l'ai dit, mais quelles caractéristiques exactement ? À quoi renvoie le caractère démocratique de la République ? Si c'est d'abord la République qui compte et non pas la démocratie ? La souveraineté du peuple ? Si c'est à cela que renvoie l'adjectif démocratique ? Mais on sait combien la question est ambiguë sur le plan constitutionnel. L'essence de la souveraineté ne se confond pas avec son exercice dans un monde de fiction où le rôle des acteurs est d'abord fondé sur des performatifs. Le peuple est souverain parce qu'on dit qu'il est souverain. D'autant que la signification de République démocratique a sans doute beaucoup évolué entre 48, 58 et de nos jours, comme on l'a vu tout à l'heure, puisque le champ des possibles est ouvert. Donc un sentiment étrange ressort de tout cela, un hiatus considérable semble exister entre l'association de la France à la démocratie, présentée comme une démocratie, voire la démocratie, l'adjectif, l'article défini toujours très intéressant, et sa quasi-absence dans le texte de la Constitution, remplacée par un adjectif dont la finalité sémantique est de qualifier un autre concept afin de lui donner certains caractères dont la Constitution ne dit rien. Ça, c'était le premier constat. Deuxième constat, pardonnez-moi, l'introduction est un peu longue, je vais essayer d'accélérer après. Sur la possible Second constat, donc, sur la possible portée théorique de la différence entre le nom et l'adjectif. Il arrive que l'on s'interroge sur le caractère plus ou moins démocratique de la démocratie. Alors là, en plus, ça est arrivé il n'y a pas longtemps, j'ai même un témoin oculaire, pas seulement de moralité, le président de ce jour, qui présidait également une table ronde organisée lors d'un colloque à Nanterre, où a été posée la question à la fin, mais existe-t-il, question très légitime, hein, existe-t-il des formes de démocratie plus démocratiques que d'autres? Alors, il y a toujours des moyens, on était à Nanterre en plus, donc évidemment, l'épistémologie est très présente et est toujours possible de dire, avec des critères qu'on va prendre, bah pour moi, la démocratie, c'est ça, et à partir de ce critère-là, que ce soit Kelsen, que ce soit Sartori, que ce soit d'autres, il est possible de dire deux, et donc on ne va pas être dans l'absolu, et dans, surtout, en quelque sorte, le néant de la subjectivité. C'est amusant, hein, parce que je les ai doublés sur leur gauche par une sorte de surenchère dans le nihilisme, et ça leur a fait peur. C'était amusant. Bon, bref, il est toujours possible de déterminer des critères. Mais ça ne résout pas, à mon avis, tout. Bon, parce qu'il y a quand même une difficulté dans l'expression. Il est frappant de constater que personne ne prend jamais le soin de dire ce à quoi peut renvoyer l'adjectif démocratique par rapport au nom. Bon. Parce que dans cette forme démocratie démocratique, elle sous-entend non seulement, chose classique, que toutes les formes de la démocratie ne se valent pas, mais qu'il peut y en avoir d'autres qui sont plus démocratiques que d'autres. Mais comment peut-il exister une démocratie plus ou moins démocratique que d'autres? Comment peut-on en arriver à pareille absurdité logique? Comment un tel monstre sémantique est-il possible sans que personne ne s'arrête sur cette question? Comme la majorité majoritaire ou la majorité qui n'a plus la majorité. Indécrottablement, je m'arrête, moi, à ces questions et qui ne me laissent pas de marbre. Alors, bien sûr, mon ambition ici n'est pas de donner des réponses, mais plus modestement, d'apporter des questions à partir d'une intuition fragile qui demande à être étayée, et par des gens autrement plus compétents que moi, bien sûr. Mais mon intuition est quand même que oui, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose, et j'essaierai de vous l'exposer en deux temps, le plus rapide possible. D'abord, que l'adjectif permet à un degré plus sophistiqué que le nom, la réalisation performative de la démocratie. Et puis, en même temps, et paradoxalement, je pense aussi qu'il permet cet objectif d'en atténuer les effets supposés. Et ce, précisément, où on ne veut pas aller. D'abord, l'adjectif démocratique comme réalisation performative de la démocratie. C'est ce que j'appellerais l'aspect positif. Quand on veut être attentif à la structuration sémantique du droit constitutionnel, on est frappé de deux choses. L'adjectif démocratique permet de démultiplier le recours à la notion de démocratie en l'appliquant à des domaines les plus variés. Je verrai d'abord ça dans un premier temps. Et dans un même temps, que je verrai après, paradoxalement, on en diluer le sens supposé. D'abord, l'adjectif démocratique permet un éclatement de sens. Alors là, j'hésite un peu à vous imposer ça, mais si je ne le fais pas, il va manquer quelque chose. Parce que ça fait à peu près un an qu'on avait réfléchi avec Denis à l'Institut Michel Villet à cette idée, et que, comme ça, dans mon coin, souvent dans mon coin, de toute façon, je note des choses. Alors je vous ai préparé une petite liste que je vais livrer à votre appréciation. Le recours à l'adjectif. Alors, voilà la liste. On va commencer par régime démocratique, système démocratique, société démocratique, très célèbre avec la CEDH. Institution démocratique, idéal démocratique, nature démocratique, démarche démocratique, problème démocratique, vie démocratique, volonté démocratique, essence démocratique, genèse démocratique, point de vue démocratique, travail démocratique, à propos de la Convention sur le climat, mécanisme démocratique, procédure démocratique, forme démocratique, matrice démocratique, débat démocratique, consentement démocratique, réflexivité démocratique, je l'aime beaucoup, c'est France Culture le matin, ça. Samedi matin surtout. Expression démocratique, décision démocratique, liberté démocratique, méfiance démocratique, discipline démocratique, jeu démocratique, air démocratique, ça c'est le monde. Attente démocratique, antidémocratique, liberté démocratique, nature démocratique, peuple démocratique, et enfin le plus beau, c'est la démocratie démocratique. Bon. Alors, si on n'était pas à l'Institut Michel Villet, on pourrait croire rapidement que je persifle. J'ai aussi une pente naturelle à ça. Et que, bah, y a deux manières d'agir, si vous voulez. On trouve tout ça absolument normal, on jette le voile, on passe le chemin, on ouvre le code qui est rouge, le code est rouge, les vaches sont noires et le monde est bien gardé. Et on ne veut pas avoir de questions. Ou alors, on peut tenter de considérer que ce recours, à mon avis, n'est pas complètement neutre. Ça peut, sinon, cacher quelque chose, du moins peut-être dire quelque chose. Dire quelque chose sur nos habitudes de langage et peut-être sur les processus de pensée, sur ce qu'a décrit Jean-Marie tout à l'heure. Questions de langage qui sont quand même très méconnues par les juristes. Ça me frappe à chaque fois. Donc, et si on pense, comme je le pense plutôt, que bah, ça nous dit quelque chose, bah, on peut dire deux choses. La première, c'est que de la même manière que le mot est partout, peut-être que la chose, elle, n'est nulle part avec l'adjectif. Hein? Quand l'adjectif est partout, lui, le nom, il n'est nulle part. Seconde hypothèse, on sent ici bien sûr une considérable inflation des mots, mais un curieux phénomène sémantique. L'adjectif ne semble pas seulement qualifier le mot auquel il est associé, mais fusionner avec lui et même le constituer. On peut par exemple savoir ce qu'est un débat démocratique, un débat, pardon. Mais qu'est-ce que c'est qu'un débat démocratique? Est-ce que c'est un débat qui réalise la démocratie? Et qu'est-ce que ce serait que réaliser les démocraties? Ou c'est un débat qui se ferait dans des conditions qui seraient des standards liés à la démocratie? C'est pas la réponse, moi. Alors, celui que je préfère, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vie démocratique. La vie, on peut savoir ce que c'est, mais la vie démocratique. Il sera toujours possible, ne nous méprenons pas, je fais une précision de théorie du droit, il sera toujours possible à n'importe quel juge de déterminer une signification normative à l'énoncé, ça ne va pas l'empêcher. Il pourra toujours dire que tel ou tel modèle ou tel processus ou phénomène n'est pas conforme à la vie démocratique. Mais il n'aura pas défini autant la vie démocratique, il aura simplement subsumé dans une catégorie un fait en considérant qu'il n'est pas conforme à ce fait, à cette réalité, sans nous dire ce que c'est. On peut toujours imaginer un juge qui s'y risque, mais enfin, pas le Conseil constitutionnel, hein, je vous fais pas de dessin. Donc, question. Et donc, on peut très bien en rester à la définition suivante de l'adjectif démocratique, ce qui possède les caractéristiques de la démocratie. Mais on ne fait que reculer d'obstacles, car cela renvoie à une définition du non-démocratie qui est tout aussi difficile, comme on l'a vu à l'instant. Et donc, un esprit attentif à la sémantique et au langage ne peut donc s'empêcher de remarquer que cette inflation sémantique ne produit pas simplement de la dilution, hein, il produit aussi de la consistance dans un premier temps. Nous donner l'illusion, non pas d'avoir affaire à des mots, mais à des choses. À mon avis, une des principales conséquences de tout ça, c'est que noyée sous l'adjectif, la démocratie qui donne le sentiment d'être partout n'est en réalité nulle part. Hein? Paradoxalement, on a l'impression que l'adjectif fait disparaître la démocratie en la nommant, fait disparaître le nom en le nommant. Et j'ai quelques éléments intéressants à vous livrer, qui ne sont justement pas des éléments juridiques, mais des éléments linguistiques. Et je me suis intéressé justement à des travaux de linguistes. Des linguistes ont démontré que les adjectifs ont des propriétés syntaxiques et sémantiques qui influent sur le fonctionnement discursif. Ils participent à la structuration de l'information et constituent les traces des opérations cognitives sous-jacentes, je cite. L'adjectif agit comme un marqueur discursif. Parmi ses effets, on note que les adjectifs ont pour effet de soumettre le lecteur à une surcharge cognitive et d'empiéter sur son autonomie d'interprétation. Ils font exister la chose qu'ils prétendent qualifier à un degré pas atteint par le nom. Comme l'explique une linguiste de l'université de Potsdam, Gerda Hassler, l'adjectif qualificatif se définit comme un élément caractéristique du nom qui exprime une propriété intrinsèque à celui-ci. Il ne peut référer au réel extérieur à l'énoncé que par l'intermédiaire du nom auquel il est incident. Cette relation entre le nom et l'adjectif peut se réaliser par l'inclusion de l'adjectif dans le groupe nominal ou par son opposition dans laquelle il exerce une fonction en dehors des limites du groupe nominal. Or, la difficulté avec l'adjectif démocratique est justement de se référer au mot démocratie lui-même, polysémique et indéterminé et, d'une certaine manière, indéfinissable autrement que stipulativement. Et surtout, j'y insiste, et c'était le point de désaccord, mais mon point d'incompréhension, tu te souviens, à Nanterre, c'est qu'à mon avis, pour confirmer ce qu'a dit Jean-Marie, même s'il est possible d'arrêter une définition de la démocratie, il est impossible de lui donner une définition qui serait historiquement, philosophiquement, juridiquement, épistémologiquement vraie. Le mot est d'abord l'objet d'une multitude de discours. dont il devient quasiment impossible de dire s'ils sont vrais ou faux, indépendamment de références historiques, mais qui ne sont pas forcément, ou étymologiques, qui ne sont pas en réalité mobilisables. Ça, c'était le premier effet, l'effet de constitution du sens, d'explosion du sens. Le deuxième effet, de mon grand B de la première partie, pour que vous puissiez suivre, c'est le résultat inversé, la dilution du sens. On pourrait objecter que le caractère performatif du langage ne tient pas seulement à l'adjectif, mais commence dès le nom, ce qui est vrai de la démocratie ou de la souveraineté du peuple ou de la nation. Les deux entités sont d'abord souveraines parce qu'on les proclame souverains sans être capable immédiatement de déterminer de cette affirmation linguistique des conséquences institutionnelles et juridiques, indépendamment du recours à une construction. Mais des linguistes ont montré, d'autres linguistes ont montré que l'adjectif démocratique rendait possible cette dilution dans des proportions inhabituelles. J'utilise ici les travaux de deux spécialistes, Hugues Constantin de Chanet et Sylviane Rémy-Giraud, dans un article très suggestif, dont je vous recommande la lecture, « Démocratie et ses dérivés, de la dénomination à l'argument sans réplique ». Que disent-ils? Ils montrent que l'adjectif a des propriétés syntaxiques, sémantiques propres. Alors bien sûr, ils distinguent deux choses, l'adjectif de relation et l'adjectif qualificatif. Sans entrer, je les cite, dans les propriétés particulières de ces deux emplois adjectivaux, on remarquera que dans le premier cas, l'adjectif de relation, l'adjectif ne fait qu'indiquer la relation, d'où son nom au contenu, au nom dont il dérive. Les principes démocratiques sont les principes de la démocratie. Alors que dans le second cas, l'adjectif exprime des qualités propres à la démocratie. La frontière entre ces deux interprétations, disent-ils, est fort ténue et propice au glissement du sens. Si l'on ajoute à ça le fait que l'emploi de démocratique met en jeu l'ambiguïté du nom démocratie, doctrine ou organisation politique, tout en estompant ses contours, du fait qu'un adjectif exprime un prédicat, non une substance, on mesure l'aubaine que représente cette unité lexicale. De quoi parle-t-on au juste, disent-ils, de doctrine, de régime politique, d'une caractéristique institutionnelle, avec ce mot, le flou devient inégalé et la tension vers l'abstraction des valeurs est maximale. C'est sans doute ce qui explique la multiplication des occurrences du mot démocratie appliqué à tout, au golf, au tennis, à ce que vous voulez. Dans mes occurrences, moi j'ai plutôt gardé des occurrences, c'était plutôt des occurrences liées aux institutions politiques, mais vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Donc, le mot démocratie contient les éléments d'une montée en puissance, dit-il, de la dénomination à l'expression de la valeur, l'indécision de son trait définitoire et l'appel vers l'abstraction, l'absence de concurrent, parasynonymique ou hyponymique, l'abondance d'antonymes lui permettent par contraste de brandir l'étendard des valeurs, d'égalité, de liberté, enfin le grand nombre de vérités de nature prédicative qui conduisent le concept à se libérer plus encore de tout contour dénominatif. Avec l'adjectif, c'est la liberté quasiment absolue, nos limites. Alors, comme je ne veux pas être trop long, je passe sur d'autres considérations, j'essaye d'avancer pour vous dire quelles seraient les conséquences du point de vue du droit là, à notre objet. Bon. Par la signification, l'adjectif qualificatif a pour effet de prêter des effets à la démocratie sans devoir en assumer la radicalité institutionnelle toujours problématique, celle de la souveraineté du peuple dont on parle. La définition que donnait Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire le peuple, lui, c'est celui qui décide en dernière analyse, même si on ne sait pas exactement ce que c'est. Et puis aussi, l'adjectif a pour vertu de pouvoir donner des caractéristiques à un concept qui pourrait sembler dépourvu sans susciter de réelles interrogations, voire de ménager les contraires, estomper les contours. Et je pense ici, vous savez, à l'opposition qui peut exister, qui était mentionnée, entre état de droit et démocratie. Les opposés suppose qu'on puisse donner une définition et donc qu'on puisse constituer des essences. Voilà ce que serait l'état de droit, voilà ce que serait la démocratie et voilà pourquoi il serait contradictoire. À mon avis, du point de vue épistémologique, ce n'est pas possible. Mais peu importe, il faut bien expliquer à des étudiants de première année et faire des catégories. Donc on comprend à peu près entre nous ce que renvoie l'état de droit, la défense des libertés, des valeurs, du droit des minorités, ce que peut renvoyer la démocratie, la décision de la majorité, la souveraineté du peuple qui impose sa volonté en tant qu'elle est volonté souveraine et pas en tant qu'elle se conforme à des principes extérieurs libéraux. Or, il arrive qu'on essaie de les concilier. C'est le cas, peut-être que spécialiste dans la salle, c'est le cas avec le concept de Böckenförde, état de droit démocratique. Et là, l'adjectif est extrêmement utile, parce qu'il permet de concilier ces contraires. Alors, je ne parle pas de la théorie de Böckenförde en tant que tel. Je pense simplement aux ressources linguistiques, sémantiques et juridiques que peut représenter l'adjectif démocratique pour l'accoler à état de droit, afin d'essayer de lever la contradiction. Et d'ailleurs, la contradiction peut parfaitement être levée. Il ne s'agit pas de dire que les deux principes ne seraient pas possibles, il s'agit simplement de s'interroger sur la portée sémantique des mots qui les désignent. Moi, je m'arrête à ça, c'est simplement ça qui m'intéresse. Donc, finalement, l'usage de l'adjectif, à mon avis, permet d'amplifier la force rhétorique. Hein, comme l'expliquent toujours les linguistes précités, démocratie et démocratique tentent largement à s'émanciper de la terminologie pour devenir des vecteurs de points de vue dans la langue standard. Et ces points de vue peuvent permettre de ramener à des oppositions binaires pour dire, en gros, disent-ils, c'est démocratique, c'est bien, c'est pas démocratique, c'est mal, sans qu'on sache jamais à quoi on peut se référer autrement que dans une propre construction. Voilà pour le premier temps. J'avance rapidement, pardon, pas être trop long, mais le président m'arrête tout de suite si ça l'est. Deuxième regard que je porte, c'est, paradoxalement, vous êtes habitués du en même temps, de toute façon maintenant, c'est que l'adjectif me paraît être une atténuation des effets de la notion de démocratie. C'est ce que j'appellerais l'effet négatif. Là, ça va vraiment être exploratoire. Alors, il est effectivement extrêmement utile cet adjectif dans un cadre représentatif qui n'ose plus se revendiquer comme tel du point de vue politique. Même ce, de toute façon, il n'a pas le choix, parce que comme Olivier l'a démontré maintes fois, comme Jean-Marie l'a redit tout à l'heure, de toute façon, on ne peut pas se passer de la représentation, il y a toujours de la représentation, puisque la médiation qu'elle implique est nécessaire. Même le plus jaune de tous les gilets jaunes ne pourra jamais se passer de représentation. Néanmoins, ça a quand même deux utilités. L'adjectif. Ça permet de faire référence à la démocratie sans en assumer les conséquences institutionnelles et surtout une possible essence de la démocratie qui est toujours liée plus ou moins attentivement à son étymologie et à ce qu'on renvoie de l'imaginaire collectif lié à la décision grecque. Au fond. Et puis ça permet aussi de faire référence à la démocratie tout en transformant le sens supposé, celui qui est présent dans le sens commun, indirectement dans toutes nos consciences. D'abord, faire référence à la démocratie sans en assumer les conséquences institutionnelles concrètes. Là, la dimension discursive de ce phénomène joue à plein en droit constitutionnel. La performativité de l'adjectif permet de faire coexister des institutions représentatives au sein d'une république seulement démocratique, et ainsi d'assumer moins mal les contraires. Non, on n'est pas une démocratie, on est simplement une république démocratique. Ceux qui marquent république démocratique ont évidemment sans doute parfaitement conscience de préférer ce mot à un autre. Mais ceux qui ne font pas les différences peuvent dire, bien sûr que oui, nous sommes dans une démocratie, d'ailleurs c'est marqué, la république est démocratique. C'est ce qu'attendent les étudiants de première année, d'ailleurs. Et le droit constitutionnel n'a pas pu échapper à cette loi sémantique, en quelque sorte, dont on trouve des traces dans l'histoire du droit constitutionnel. Je vais redire, peut-être avec plus d'écho dans nos esprits à tous, la formule de Jean-Marie tout à l'heure, à propos de l'utilisation d'Esmain sur l'adjectif démocratique et le refus de la démocratie. Lui, c'était pour des raisons très simples, il ne voulait pas ce régime, qu'il associait sans doute au régime direct, plus ou moins défini, avec les connaissances qu'on pouvait en avoir à l'époque, à la démocratie athénienne. Euphonique, décoratif, relativement consensuel, il ménage les évolutions du monde. Autrement dit, il permet d'intégrer dans les institutions et dans l'étude des institutions, y compris de la Troisième République, où évidemment, le mot démocratie n'est pas dans les lois constitutionnelles, on ne risquait pas de l'y trouver. Hein. Tout en se gardant des faits trop radicaux. Et donc l'adjectif démocratique permet de se référer à la démocratie tout en restant flou sur le sens, en se situant non au niveau du substantif, mais à celui des conséquences, comme si une étape logique était supprimée, comme si les conséquences n'étaient plus qu'une conformité à un substantif dont l'indétermination n'est plus un problème. À ce stade, on a sauté une étape. Utiliser l'adjectif, pardon, peut aussi permettre de transformer le sens de la démocratie. Problème épistémologique, parce que si je dis transformer le sens, ça supposerait qu'il y en ait un essentiel, on revient toujours sur cette question indébrouillable. Bon. Mais enfin, admettons, il y a un très beau tour de passe-passe quand même, hein, auquel on a assisté. C'est le concept, bien sûr, qui atteint le summum de tous, c'est le concept de société démocratique issue du droit de l'Union européenne. Il l'illustre mieux que tout autre. Elle semble correspondre à l'idée que la volonté du peuple ne saurait être une fin en soi si elle est oppressive et liberticide et qu'elle consiste moins en la proclamation de la souveraineté de la majorité qu'en la défense de la voix des minorités. Le pluriel est toujours important. Elle semble correspondre davantage à ce que la Cour européenne des droits de l'homme nomme donc société démocratique, présente 8 fois dans le texte de la Convention européenne de sauvegarde, et jamais, chose frappante, à propos des élections, mais à propos de ce qui caractérise ce que Karl Popper appelait une société ouverte. Droit à un procès équitable, droit au respect de la vie privée et familiale, liberté de pensée, de conscience, de religion, d'expression, de réunion, d'association, de circulation, droit à la vie et à l'abolition de la peine et abolition de la peine de mort. Bien sûr, on pourrait m'objecter que ces conditions formelles, je l'explique moi-même dans l'ouvrage dont on a parlé, sont nécessaires pour que puisse se réaliser un régime réel de souveraineté du peuple si ces libertés n'étaient pas garanties. Mais vous voyez bien qu'on a affaire ici à une bascule. Parce que toutes ces valeurs, si on voulait se situer dans le monde des essences, correspondent davantage à celles du libéralisme qu'à celles de la démocratie auxquelles on se réfère habituellement. Donc le passage de la démocratie à la société démocratique a tout d'un tour de passe-passe remarquable. L'idée centrale de l'autonomie des citoyens en tant que leur volonté de souverain a disparu. Formule Hadeville, donc, pour dire qu'il convient de la respecter, la démocratie, à travers des principes, sans jamais, toutefois, assumer la question de la souveraineté du peuple, principes démocratiques qui sont également présents dans les traités de l'Union européenne. Article 9, le traité de l'UE, dans toutes ses activités, l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens, qui bénéficie d'une égale attention de ses institutions, ça c'est beau, ça. Organes et organismes, est citoyen de l'Union, toute personne ayant la nationalité d'un État membre, la citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. C'est beau, c'est pas très engageant, mais on a bien les principes démocratiques qui sont là. La souveraineté du peuple et toute idée de souveraineté, de toute façon, tout court, a disparu, tout en maintenant l'usage du mot avec la connotation à présent positive qu'il a, parce qu'il s'est passé un phénomène qu'a évoqué Jean-Marie tout à l'heure, c'est qu'entre 1700, entre le 18e siècle, pour faire bref, et maintenant, bascule également épistémologique, démocratie d'une notion négative est devenue méliorative, bien sûr. Et personne, y compris le plus autoritaire, le plus dictatorial, le plus totalitaire des chefs, ne pourrait pas se revendiquer de la démocratie. D'ailleurs, même dans les régimes qui allaient le plus loin dans ce type de choses, Olivier pourrait nous en parler, eh bien, le mot démocratie était présent, bien sûr. L'adjectif démocratique permet ainsi de contourner le piège discursif de la notion de démocratie et de son épineuse définition, plus exactement de son fondement ontologique. Plus le mot démocratie est employé frénétiquement, soit à travers le nom, plus il provoque des attentes qui se réfèrent à l'étymologie et donc des tentations de mesure entre ce qui est évoqué et ce que les citoyens perçoivent comme la réalité. Le risque de déception est immense, car pressé de l'article défini là, la notion de démocratie est perçue comme un absolu et non comme un relatif. Or, justement, l'intérêt de l'adjectif, c'est de réintroduire de la relativité dans ce qu'on perçoit en principe comme un absolu. La dimension performative s'agissant de la démocratie est donc à double tranchant. Le mot fait exister, mais provoque aussi implicitement le sentiment qu'elle n'est jamais là dans son authenticité fantasmée. Et le recours à l'adjectif permet de déjouer en partie ce piège en la rendant présente alors qu'elle pourrait être regardée comme absente. Une conclusion rapide, on sort de ces quelques remarques très prospectives et je vous demande encore de pardonner le caractère, et même peut-être immature, avec le sentiment que l'emploi de l'adjectif démocratique n'est pas neutre. Il ne revêt pas seulement la signification de ce qui est conforme à la démocratie ou a trait à la démocratie, mais remplit en quelque sorte un rôle performatif particulier pour faire exister un régime que les institutions représentatives ne réalisent pas une fois écartées d'idée que la démocratie était seulement le faire proclamer le peuple souverain sans lui donner l'exercice de cette souveraineté. Et donc l'usage de l'adjectif démocratique, loin d'éclairer la notion de démocratie, l'obscurcit toujours un peu plus en repoussant la question de la signification du nom par la formation d'un écran. Et si l'on voulait essayer quand même de tirer une conclusion provisoire et un peu risquée pour faire le lien entre démocratie et représentation, j'aurais quand même, en étant un peu provocateur, j'irais quand même jusqu'à dire que la démocratie, que l'adjectif démocratique, pardon, pourrait être considéré comme la tenue de camouflage de la représentation dans la Constitution. D'une part, faire exister le nom et l'imaginaire qu'il est censé charrier. D'autre part, tenir à distance aussi bien la définition de la notion de démocratie que les conséquences institutionnelles concrètes qui pourraient en être tirées. Et donc, indépendamment des critiques certaines que vous pourrez formuler, il me semble que si tout ça s'effondrait, il en resterait quand même, néanmoins, à mon avis, quand même un point positif et une certitude, c'est que ce constat, le constat que je viens d'esquisser devant vous, de tenter d'esquisser, confirme, à mon avis, les rapports très étroits, mais trop peu étudiés, entre le droit constitutionnel et le langage. Merci.